Philippe Chitarini, bonjour.
Bonjour, enchanté de vous rencontrer.
Avec plaisir, puis aussi un grand plaisir de rencontrer vos œuvres. Vous êtes artiste plasticien, vous naviguez, vous rayonnez entre le sud de la France et la Chine, et vous êtes aussi, bien sûr, par l'essence de votre proposition, explorateur d'espace et de couleurs et au service du rayonnement de ces deux composantes qui s'interfèrent dans un dépouillement total, comme cela se vérifie actuellement, à l'Arsolite à Saint-Jean-en-Royans pour une exposition temporaire, La vie en rose. Et une devise de Ludwig Mies van der Rohe, si je prononce bien, illustre parfaitement votre travail, Less is more, hein, le moins et le plus. On vous qualifie comme artiste minimaliste. Comment caractériser cette discipline et pourquoi pas ça donner l'aspect plutôt de peinture figurative?
Alors, c'est vrai que venant du sud de la France, c'est assez étonnant de pratiquer le genre d'art que je pratique. Souvent, la peinture dans le sud de la France est figurative, représentative de personnages, de paysages, etc. Là, j'ai évacué complètement tout ça de mes toiles dans un premier temps pour ne faire que du monochrome. C'est-à-dire reprendre, bon, on a l'impression que tout a été fait, mais reprendre cette idée donc, de travailler des toiles monochromes, c'est-à-dire d'une seule et même couleur, en jouant sur différentes matières, le brillant, le mat, le satiné. Donc repenser le monochrome en quelque sorte. Je veux dire, ça a donné ça a été le début. Le commencement de mon travail.
On dit d'ailleurs monochromiste, hein, c'est ça?
Oui, ça peut se dire, oui. Le terme a déjà été employé me concernant. Mmh. Oui.
Alors là, la spécificité, c'est aussi s'immerger dans la couleur et puis par ces œuvres que vous réalisez qui ont toutes aussi un format commun.
Alors souvent, ce sont des multiples du carré. Soit le carré de base, soit des multiples, c'est-à-dire des doubles carrés, des triples carrés. Je travaille souvent aussi en série. C'est-à-dire avec plusieurs modules que je peux réagencer suivant l'espace du lieu, parce que je suis très très sensible à l'architecture du lieu qui accueille mon travail, et je ne présente jamais l'œuvre de la même façon suivant le lieu dans lequel elle va être accrochée. Et là, donc pour l'Arsolite, on va dire c'est un peu une première dans mon travail, puisque comme la lumière a une très très grande importance dans la perception de mes toiles, les spectateurs sont obligés de bouger devant mes tableaux pour percevoir justement ces formes brillantes ou mates qui se dégagent des monochromes. Là donc j'ai décidé de créer dans ce lieu qui s'y prête, encore une fois, une installation immersive. Voilà. Donc être baigné dans la couleur, dans la lumière et percevoir par-ci par-là quelques tableaux qui vont être accrochés au mur.
C'est vraiment le cas, on baigne dans la couleur par les œuvres accrochées et puis effectivement l'ambiance qui donne aussi une autre dimension aux différents formats, donc des carrés comme vous le disiez qui, on peut dire de manière juxtaposée, peuvent donner aussi des contrastes de rayonnement assez significatifs.
Oui, tout à fait. Suivant donc en général ce sont des surfaces lisses mais avec des matières différentes. Donc des huiles brillantes, des acryliques mates ou satinés qui viennent donc proposer des formes alors très simples, hein, puisque là encore une fois dans mon jeu plastique je n'utilise que des orthogonales. J'ai pas de courbes, j'ai pas de lignes de biais. On parlait tout à l'heure de François Morellet, qui lui introduit des lignes, on va dire, obliques. Moi non. Tout est orthogonal, comme chez Mondrian d'ailleurs. Voilà. Donc au départ, j'ai fixé les règles et je me dis avec des couleurs qui sont tout le temps pures, c'est-à-dire que je n'ai pas de mélange, je n'ai pas de dégradé, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Ou avec que ça plutôt. Pour une exposition comme ça, c'est des pièces que je fais, donc des tableaux que je prépare à l'atelier en ayant visité le lieu au préalable. Donc je fais des croquis, je travaille avec le plan du lieu. Et je prévois donc un certain nombre de tableaux à accrocher, souvent un peu plus, parce que voilà, quelquefois on n'envisage pas tout, donc il vaut mieux. Mais après je compose avec ça. Mais ce sont des tableaux qui ont été faits pour le lieu. Voilà, c'est pas des œuvres que j'ai depuis un moment et que je réinvestis.
Voilà. Alors, Donc la lumière est très importante, puisqu'effectivement, il n'y a pas de lumière naturelle, mais il y a un éclairage certain que, avec beaucoup de minutie, vous adaptez pour donner le sens aux œuvres. Comment concevez-vous cet éclairage ?
Ben là, pour le lieu de l'art solide, ça va être un éclairage à partir donc de néons colorés. Ça s'appelle la Via en rose, donc il y aura des néons rouges et des néons roses qui vont éclairer le lieu, et aussi des châssis de toile, de toile à peindre, sur lesquels j'ai enlevé la toile, j'ai peint les châssis en blanc, ils seront rétro-éclairés par des néons blancs. C'est-à-dire la lumière viendra de dessous. En général, dans mes œuvres, dans mes peintures, les peintures captent la lumière naturelle pour la réfléchir, pour l'absorber ou autre. Là, les châssis vont produire leur propre lumière, en quelque sorte. Hein. Donc la lumière va venir des œuvres.
D'accord.
La lumière artificielle, bien entendu.
Donc c'est une valeur ajoutée, on peut dire, finalement, à l'œuvre. Enfin, ça donne, si on la verrait en plein jour ou avec ce rétro-éclairage, c'est complètement différent.
Alors, complètement différent. Si c'est dans une pièce neutre, c'est-à-dire avec des murs blancs dans laquelle il n'y a pas de lumière, ça apparaît d'une certaine façon. On va dire, là, les murs vont être entièrement peints, donc colorés, donc ça va apparaître encore différemment. J'ai montré ce principe d'œuvre au CAC de Saint-Restitut l'année dernière, dans la Drôme, où là, c'était des pierres apparentes, donc dans des caves. Bon, ça avait encore une autre allure, on va dire, générale. Hein, voilà.
Et là, c'est une chance, finalement, de complètement peindre tout l'environnement, du mur au plafond, et puis
et
adopter...
Le sol.
Et le sol, bien sûr, tout à fait, complètement relooké, cette pièce. Et aussi une certaine progression que vous avez conçue.
Ouais. Un cheminement, je veux dire. Je ne sais pas si on peut parler de progression, mais en tout cas, un cheminement où... D'emblée, donc, le spectateur va se retrouver baigné dans une lumière rouge pour aller progressivement vers du rose et aller vers la sortie et retrouver du blanc, on va dire, plus traditionnel.
Mmh. Voilà. Ah oui. On termine dans le blanc qui est finalement une addition de couleurs, hein, oui. Dans la physique. Ce qu'on voit.
Exactement, exactement. La lumière du soleil donc, étant le spectre, on va dire, on retrouve toutes les couleurs.
Vous avez des couleurs fétiches pour la réalisation de vos tableaux
ouais. Oui. Des couleurs que je fais faire. C'est pas des couleurs qui existent de façon naturelle, on va dire, dans les magasins. Donc je les fais faire. Ce sont des couleurs... j'aime bien utiliser, on va dire, une gamme de couleurs qui n'existe pas justement en rayon. Parce qu'en travail le monochrome, il faut apporter quelque chose, on va dire... Il y a des artistes qui disent, bon, tout a été fait, donc il faut apporter une touche personnelle. Déjà, le choix des couleurs est important. Donc je vais aller vers des couleurs, quelquefois un peu inattendues. Et dans le rapprochement de certains monochromes, je vais jouer sur des nuances d'une même couleur. Des nuances de rouge, des nuances de jaune, d'orange, de bleu. Voilà. Et c'est pour ça que là, pour l'art solide, on a fait faire justement la peinture avec les codes couleurs. Sur le nuancier,
oui.
Voilà.
Et la technique du glacis, ça peut apporter quelque chose à votre travail ?
Mais alors, le glacis, c'est une technique voilà, très particulière qui remonte, on va dire, je crois que c'est, si mes souvenirs sont bons, à la Renaissance, mais qui apporte pas... Je travaille principalement avec des peintures industrielles.
Oui.
J'aime ce rapport immédiat à la peinture. J'aime ouvrir un pot de peinture et y plonger dedans, tout de suite. Donc je vais travailler plutôt sur le nuancier pour me dire, voilà, là je sais que j'ai de l'huile brillante, donc j'aurai tel résultat, très tendu, un peu comme une carrosserie de voiture. Là je vais avoir, par exemple, une acrylique mate, donc plus profonde, plus veloutée, ou plus, voilà. Mais je ne retravaille pas mes couleurs.
D'accord.
En soi,
okay.
Comme certains artistes, collègues qui travaillent à partir de pigments, à partir de liants ou de choses comme ça, non, là non.
C'est votre sens de l'observation parfois qui crée l'envie de ce que vous pouvez contempler autour de vous, qui donne cette idée de couleur ?
Oui. L'observation, par exemple, quand la première fois où je suis allé travailler en Chine, les couleurs n'étaient pas du tout pareilles que celles que j'avais l'habitude de voir ici, donc ça avait complètement transformé mes toiles. Donc je me balade souvent, alors évidemment, avec de quoi faire des photos et de quoi écrire ou dessiner. J'ai toujours un carnet de croquis sur des proportions, des dimensions, des choses comme ça. Je vous donne un exemple, si vous voulez. Là, dernièrement, là, puisque j'habite dans le sud de l'Ardèche, il y a des miradors de chasse aux sangliers. Et je suis tombé en admiration devant les proportions de ces miradors. Donc j'en ai fait des croquis et ça a donné toute une série de sculptures après. Voilà, retravaillé bien entendu, mais c'est parti de là. Donc oui, j'observe beaucoup. Ouais, ouais. Et souvent des choses que les autres personnes n'observent pas, justement.
Oui. Vous êtes affûté, là.
Ou obsessionnel, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, pas normal dans ma façon de, certainement, de regarder ce qui, naturellement, on ne regarde pas.
Alors, vous avez un pied en France, un pied en Chine. Pourquoi ce choix de...
En 2017, suite à toute une histoire, on m'a proposé une résidence artistique à la China Academy à Hangzhou. Donc c'est la Chine de l'Est, la Chine des lacs. C'est très beau. Donc j'ai accepté. Et puis, ça a vraiment fonctionné, ça a matché, comme on dit, avec les Chinois. Donc on m'a proposé de faire des workshops avec les étudiants. Et donc ils m'invitent chaque année à aller là-bas. Pour faire aussi des visioconférences, pour donner des cours, pour enseigner en atelier, donc dans le département peinture. Et c'est vraiment une expérience pour moi qui a bouleversé les choses, on va dire. Ouais.
Ouais, ouais. Les Chinois sont adeptes du monochromisme ?
Quand je suis arrivé là-bas la première fois, je suis passé pour un extraterrestre, on va dire. Oui, parce qu'ils n'avaient pas du tout... Ils ont une... on va dire une tradition qui est respectée, notamment dans les concours d'entrée aux écoles d'art, qui n'a rien à voir évidemment avec le monochrome. À mon grand étonnement, ils connaissent très peu l'art occidental, la peinture occidentale, entre autres. Donc oui, j'ai été très étonnant pour eux. Mmh. Voilà. Après, ils s'y sont faits.
Oui.
Oui. Mais... ils m'ont accepté. Oui. Ils m'ont proposé de faire des expos, voilà, de travailler avec une galerie. Et... ouais, ça a été une très belle expérience. Enfin, que je poursuis. Alors, le Covid a changé beaucoup de choses, mais que je poursuis là actuellement, notamment en visio, pour donner des cours.
D'ailleurs, en parlant de cours, vous avez étudié aussi à l'université aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, c'est bien ça?
Oui, un parallèle. D'abord, j'ai un parcours qui est assez atypique, puisque j'ai eu une formation scientifique. Je suis parti à Grenoble, en fac de sciences. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEUG. Puis ça ne me plaisait pas. Donc, à l'époque, il y avait une espèce de concours pour entrer à l'université d'art plastique donc d'Aix-en-Provence, où j'ai été pris. Et comme les ateliers à l'université ne me convenaient pas vraiment, c'était pas des vrais ateliers, en parallèle, j'ai été accepté le soir à l'école des Beaux-Arts. Et donc je faisais les deux en même temps. Voilà. Donc j'ai pu faire un DEA d'art plastique à la fac d'Aix et en parallèle un DNAP à l'école des Beaux-Arts d'Aix. Voilà.
Et cela a apporté beaucoup d'eau aussi à votre moulin en termes de vos pratiques actuelles.
Oui, alors bien sûr toutes les bases, hein, notamment en histoire de l'art. Je considère qu'on ne peut pas être un artiste actuellement sans avoir fait de l'histoire de l'art et connaître justement l'histoire de l'art pour ne pas faire ce qui a déjà été fait. Pour moi, c'est essentiel. Et puis aussi toute la pratique pour, je dirais... en sortant de là, se dire il faut faire l'inverse de ce qu'on vous a enseigné. C'est pas du tout une critique de l'enseignement, au contraire. Mais si on veut se démarquer, se dire bon, mais voilà, on m'a enseigné ça, mais est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire d'autre, hein, qui peut-être prend le contre-pied justement de ce qui a été enseigné.
À la lueur de vos œuvres, on se plonge aussi dans un peu un courant artistique des années 70-80, cette influence américaine qui semble vous habiter.
Ah oui, complètement. Oui, oui. Moi, l'art américain, quand j'étais petit, donc j'ai eu accès à certains livres d'art américain, de l'art américain d'après-guerre, des années 60-70, comme vous disiez, et j'étais fasciné. Là, toute cette période... le minimalisme, le color field, toute cette période m'a vraiment intéressé. Après, j'ai écouté des interviews du galeriste Léo Castelli, interviewé par Claude Berry, etc., etc. Donc vraiment, ça m'a marqué. J'ai beaucoup lu aussi les critiques américains. Bon, je savais qu'il ne fallait pas faire pareil, bien entendu. Mais ces influences, après, j'essayais de les digérer, de les ressortir à ma façon. Mmh. Voilà, avec, évidemment, mon héritage culturel européen, bien entendu. Mmh. Et ça a tout de suite fonctionné, on va dire, avec l'Allemagne, avec la Hollande, avec ces pays-là qui ont cet héritage du Bauhaus, qui, eux, ça leur parle.
Ouais. Ça parle peut-être moins en France.
Oui, bien sûr, bien entendu. Et encore beaucoup moins dans le sud de la France.
Ah oui. Ouais, ouais. Oui, là où on est plus dans les paysages d'autres représentations.
Complètement, oui, oui. On est plus dans un art figuratif, un art narratif aussi, où là j'ai évacué tout ça. Donc là aussi, je suis un peu un extraterrestre par rapport à ces personnes. Et donc actuellement, ça fait écho à ce qu'on vient de dire, je suis représenté donc par une galerie allemande de Cologne, une galerie suisse, et une galerie américaine, oui. Mais j'ai toujours pas de galerie française. Oui. Voilà. C'est pas que j'ai pas essayé, mais c'est plus compliqué.
Oui, c'est pas dans la culture, semblerait-il. Enfin, pas tout à fait, ou alors de manière très ciblée.
Il y en a très peu en France qui montrent ce genre de travail. Bon, il y a la galerie La Lumière à Paris, où ils ont des artistes, je veux dire, presque un peu historiques. Mais après, c'est plus compliqué.
Ah, ouais. Ouais. Dans les centres d'art contemporain, ça pourrait avoir bonne place.
Alors, j'ai déjà eu des expositions collectives ou personnelles dans des centres d'art, mais ce n'est pas ce qui montre certainement en priorité. Ouais. C'est un peu plus compliqué.
Ouais. Il y a des artistes qui vous ont inspiré, qui continuent à vous stimuler dans votre travail.
Oui, 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 bien sûr, bien entendu. Parmi, alors s'il faut en citer que quelques-uns, en France, François Morellet, qui m'a vraiment marqué là aussi, hein, pour son travail géométrique et abstrait et très minimal. Chez les Américains, si je devais en citer qu'un, ce serait peut-être Frank Stella, parce qu'il a su se réinventer complètement. Voilà, c'est extraordinaire pour moi son travail. Olivier Mossé, bien entendu, le Suisse Olivier Mossé. J'ai eu la chance, en 2008, je crois, de faire un petit morceau d'exposition. Il m'avait permis, avec lui, au centre, je crois que c'est... oui, c'était au centre d'art contemporain de Saint-Restitut, où j'avais l'impression de faire la première partie des Rolling Stones. C'était... Waouh. Exposé avec Mossé, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Voilà, ces trois artistes, on va dire, font partie des artistes qui m'ont vraiment marqué, mais il y en a d'autres, bien entendu, et des beaucoup plus anciens.
Ouais. Par exemple, si on évoque Marc Rothko, ça peut avoir une certaine comparaison avec ce que vous faites.
Pour la couleur, oui. Ouais. Oui, oui, et cette manière de diffuser la couleur de façon, on va dire, vaporeuse, un peu, sur sa toile, oui, oui, bien entendu. James Turrell, pour la lumière, bien entendu aussi. Oui, tous ces gens, oui, Dan Flavin, pour les néons, bien sûr.
Eh bien, en tout cas, Philippe Chitarini, je vous remercie beaucoup pour la présentation de cette très belle exposition qui nous baigne littéralement dans vos propositions de couleurs. C'est vraiment de l'art immersif, hein, dans sa plus pure signification.
Oui, oui, oui. Moi, je l'espère. J'espère que les gens le percevront comme ça, bien entendu.
Et quand on parle du côté formel, radical, c'est ce que vous souhaitez souligner derrière tout cela ?
Complètement, oui. Oui, oui. Je pense que la radicalité de mon travail, j'en ai parlé, donc déjà une base qui est très limitée au niveau du choix des couleurs, au niveau des formes, au niveau des supports. Oui, c'est tout ça, quoi, qui fait qu'on peut qualifier mon travail, bien entendu, de peinture radicale. Oui, oui.
Merci.
Ah ben, c'était un plaisir, un grand plaisir. Merci à vous.